Tes poches sous les yeux, l'émission.
Hey, bonjour à toutes et à tous, il est midi, c'est l'heure de retrouver Des Poches Sous Les Yeux, l'émission en direct sur Radio Béton 93.6 qui vous propose, comme à son habitude, de faire le plein de chroniques, de livres, éventuellement de bandes dessinées et d'interviews. Et ce samedi, nous sommes en direct du soleil. En direct du soleil? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais comment font-ils? Vos chroniqueurs préférés se seraient-ils mués en astronautes de l'impossible jusqu'à atteindre le soleil au mépris des principes de la physique? Que nenni! Cette semaine, toute l'équipe de Des Poches Sous Les Yeux, l'émission est en direct de ce nouveau lieu de la vie culturelle, Tourangelle, le soleil, 6, 9000 rue de la Grange qui est à Tours. Elle en jette cette adresse. Cette guinguette d'hiver qui a vu le jour il y a 3 semaines à peine nous fait déjà le plaisir de nous accueillir car ils savent, oui, ils savent que là où Des Poches, l'émission se déplace, la culture croît. Et c'est sur ces bonnes paroles que nous recevons nos premiers invités, Alice et Nicolas Stedler, nos hôtes du jour, que Pascal va se faire un plaisir d'interviewer.
Et oui, on est donc au soleil, tranquille, peinard. Tout ça, on le doit aux Stedler. Alice et Nicolas, le couple qui a révolutionné la métropole en créant d'abord la clinique du street art en 2023-2024, puis en mettant en orbite le soleil, la guinguette d'hiver de Saint-Pierre-des-Corps. Bienvenue à tous les deux.
Bonjour.
Merci, bonjour.
Alors, parlez-nous un petit peu de la genèse de ce projet de guinguette d'hiver.
La genèse, elle remonte à un peu loin, puisqu'elle remonte à notre voyage de noces à Burning Man, où nous, à la base, on est architectes et designers. Et on revient de là-bas en se disant qu'on passe à côté d'un truc dans notre vie, qu'on a envie de faire des choses un peu rigolotes pour les gens et d'amuser la galerie. Et donc, ça vient de ce souvenir lointain.
Et avec une grande passion pour, de toute façon, les festivals en général.
Ouais, voilà. Dont aucun. Et voilà, l'idée s'est construite un petit peu comme ça au fur et à mesure. Et puis, on s'est dit que l'hiver sur Tours, il se passait beaucoup moins de choses que l'été. Et qu'il manquait d'un lieu comme on en trouve un peu. Bah, nous, les références, ça va être Berlin, Amsterdam, Londres, choses comme ça, en friche industrielle, avec des lieux où on peut tout mettre dedans et faire tout ce qu'on veut.
Et du coup, vous avez encore du temps pour votre métier de base ou vous avez carrément bifurqué?
Bien sûr.
On va moins parler de ça que du reste. Ouais, mais on s'organise parce qu'on travaille sur notre métier d'avant, enfin de base. On travaille avec Hélène et Laetitia.
Sur l'agence d'archi, en fait, au départ, on est 4. Et ça fait 1 an et demi qu'on s'organise avec elle de façon à ce que pendant la saison d'hiver, on consacre à peu près 30% de notre temps à l'agence d'architecture et les 70% restants au soleil. Donc nous devenons un peu des saisonniers sur le sujet et on rebasculera 70% sur l'été en architecture et 30% le soleil.
Et sur la clinique du street art, vous étiez associé à CREA, hein, les copresses de Terre du Son, et ils n'ont pas suivi?
Terre du son, c'est compliqué.
Le projet du soleil, il existe avant même qu'on ait rencontré Franck, Arnaud et Ronan. On les connaissait pas en fait quand on avait déjà lancé le projet du soleil, nous, dans nos têtes et avec les associés qu'on avait conviés.
Oui, donc c'est un vieux projet.
Donc c'est un vieux projet qui a mis du temps à être construit.
C'est-à-dire un vieux.
Je dirais 4 ans comme ça, à la louche. Première idée, quoi.
Cette idée-là, ça fait une dizaine d'années qu'on veut faire quelque chose de sympa.
Voilà.
Et donc là, vous avez de nouveaux associés.
Et oui, on a de nouveaux associés, dont Mathieu Djoua, que vous connaissez bien, qui est le rédacteur chef de 37 degrés Info Tour. On a Tommy, qui lui s'occupe du bar. Et après, on a 5 potes qui sont venus nous aider financièrement.
On a nommé nos petits rayons de soleil pour alléger le...
du coup, ils ont le droit à des pots gratuits?
Parce que tout le monde paye ses coûts, même les patrons.
La politique, c'est tout le monde paye au bar. Déjà, on n'a pas à devenir alcoolique. Et puis au moins, il n'y a pas d'embrouille, c'est propre entre nous autres.
Là, on est à Saint-Pierre-des-Corps. Donc, c'est avec l'accord de la ville de Saint-Pierre-des-Corps que le soleil s'est construit?
Au départ, ça commence avec Barbara Rivière, qui était la directrice de l'urbanisme à Saint-Pierre-des-Corps.
Qu'on connaissait via notre étiquette architecte.
Ouais, via la table de Jeanne-Marie.
Et la table de Jeanne-Marie,
oui. Et on lui en a parlé, et elle nous a dit, y a un bâtiment qui pourrait bien vous plaire, qui est celui dans lequel on est.
Ouais, elle est bonne pour ce genre d'idée, hein, parce que c'était avec elle aussi qu'on avait monté les 20 ans de Radio Béton au Magasin Généraux.
Ah voilà. Elle adore.
Barbara. Et du coup...
Bah, elle nous a mis en relation avec la mairie, en
ouais,
fait.
Avant de partir, elle nous a mis en relation avec Emmanuel François, l'ancien maire de Saint-Pierre-des-Corps.
Mais on a présenté le projet, on a monté un dossier, on a fait une sorte de plénière, histoire de vendre un peu ce qu'on pouvait faire à cet endroit-là pour pouvoir avoir le lieu. Il y a eu une bonne année et demie avant que les choses se valident auprès de la mairie de Saint-Pierre-des-Corps.
Donc... Les choses peuvent bien se passer avec Emmanuel François, c'est ça que vous êtes en train de dire.
Tout à fait.
Oui.
C'est vrai.
Nous, ça a été.
Ouais, très bien même.
Mais oui, ça a été facile de les convaincre.
Bah...
Ou alors ils se sont dit, oh là là, c'est quoi ce plan
Bon, comme c'est tout un univers politisé, c'est toujours un peu délicat. Moi, j'aime bien mettre les pieds dans le plat, je ne suis pas douée en politique, donc je vais prendre sur moi de parler. Mais en gros, avec Emmanuel François, je pense qu'il a cru au projet assez rapidement. Mais en interne, dans leur équipe, à ce moment-là, c'était quand même assez compliqué. De ce que j'en ai compris, j'ai découvert. Et donc, en interne, il y a eu pas mal de votes contre. Après, ce qu'on ne sait pas, c'est si les votes contre ont été liés au projet lui-même, à des problématiques internes. Ça, j'aurai jamais la réponse. Mais depuis que le lieu a été approuvé, certaines des personnes qui avaient voté contre sont venues nous voir en disant que le projet était top. Donc, ça a mis du temps. Il a fallu un an et demi à pas avoir... On était un peu des outsiders, genre d'où ils sortent, ceux-là, ils veulent monter une boîte, là, dans notre dos, ce qui n'était pas le cas, mais... Ça n'a pas forcément été bien interprété au départ, mais je pense qu'aujourd'hui, ça va.
Et donc, parlez-nous un petit peu de la spécificité de cette guinguette. C'est quoi le pitch ?
Le pitch, c'est que on a appelé ça guinguette, non pas parce que c'est au bord de l'eau ou des choses comme ça. On a appelé ça guinguette parce qu'on y boit des coups et qu'on peut danser et qu'on peut y faire plein de choses.
Donc, on peut y faire à l'intérieur ce que d'habitude on peut faire à l'extérieur.
Voilà.
On veut oublier le fait qu'on est à l'intérieur et que c'est l'hiver.
Exactement. Et puis le but, c'est que ce soit populaire dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on puisse mixer tous les genres, tous les styles et toutes les populations. Et ça va du lundi après-midi avec le bal dansant avec Franck Sirotto, qui d'habitude est à la guinguette de Roche-Corbon, qui vient ici, au samedi soir où ça va être beaucoup plus festif, clubbing, le vendredi soir ça va être des concerts, mercredi après-midi c'est les enfants, enfin voilà.
Avec des temps sportifs, en fait c'est comme dans le côté tout le monde y va à la guinguette, on voudrait que tout le monde y aille au soleil, et un maximum de gratuité.
Ouais.
Je précise.
J'ai lu aussi que dans les spécificités, il y a eu pas mal de récup pour pouvoir construire ce lieu.
Ouais, ça c'est pour le coup, c'est le côté archi qui nous a permis de récupérer beaucoup de choses sur nos chantiers. Donc le bar, il est fait avec l'ancien toit de l'association active.
Qu'on a rénové là il y a un an.
Les bâtiments. Les toilettes, nous on les a gardées pendant un an et demi, deux ans dans notre jardin. Parce qu'on les a récupérées dans un hôtel qu'on a fait.
Ça fait deux ans que les chantiers que je gère à l'agence, parce que je suis plutôt le maître d'œuvre sur la structure d'architecture. Et ça fait deux ans que sur tous mes chantiers, je dis aux clients, est-ce que je peux récupérer ça? Est-ce que je peux récupérer ça? Et qu'on accumule dans notre jardin tout plein de choses, dont des toilettes et des pissotières, voilà, qui sont restées un long moment et qui sont maintenant installées ici.
Par souci écolo ou par radinerie?
Par total souci écolo. Et au plus qu'écolo, c'est que comme le lieu est voué à la démolition à terme, le lieu dans lequel on se trouve, c'était complètement idiot d'y mettre des choses neuves qui potentiellement allaient devoir aller à la poubelle.
Comment? Donc, ça, c'est à peine né, la fin est déjà programmée?
Non, on a une convention...
La fin du soleil, non, mais du bâtiment peut-être.
Ouais, on a une convention d'au moins 6 ans sur le lieu. Mais la zone est vouée à être structurée avec un échangeur sur l'autoroute, le déplacement de la gare de Saint-Pierre-des-Corps, des choses comme ça. Et donc à terme, dans une dizaine ou une quinzaine d'années, ce sera...
Science-fiction.
En fait, tout ce qui a été construit ici, on essaie de le faire un peu comme des circassiens, c'est-à-dire qu'on est dans une boîte, mais si un jour on doit partir dans un autre bâtiment, et on partira dans un autre bâtiment sans difficulté. Et tout le projet... comment on paye nos artistes, comment on finance en fait tous ces événements qu'on crée, c'est aussi parce qu'on est dans un bâtiment entre guillemets complètement pourri, même si, parce qu'on y a fait beaucoup de travaux pour le rendre moins pourri, et ça nous permet d'avoir un loyer un peu moins important et donc des charges qu'on peut transporter, téléporter sur des frais d'artistes, d'associations, choses comme ça.
Qui gère la programmation de ce lieu?
Alors c'est Mathieu qui gère la programmation principalement du lieu. Nous on s'était associé avec lui parce qu'il a une bonne connaissance du milieu culturel local, donc du coup ça nous permet de contacter facilement tous les artistes et les intervenants, et puis après on fait ça tous les trois sur les grandes lignes, sur les directions qu'on prend, mais on tâtonne encore, on se cherche encore sur certains sujets.
Comment vous arrivez à concilier entrée gratuite et spectacle payant aussi?
Ouais. Alors, nous, le but, c'est que ce soit effectivement un maximum gratuit. C'était aussi l'idée de montrer que on peut faire des choses sans toujours faire payer les gens. On n'est pas obligé de visiter Notre-Dame en payant 5 euros. Et donc, pour ça, on fait tourner le bar. La programmation ramène du monde. Et, voilà. Et après, il y a certains gros événements, comme par exemple le 30 novembre avec Béton. Quand la programmation est vraiment grosse et trop lourde à assumer, on est obligé de faire une entrée payante. Mais ça restera anecdotique.
Ouais, on a pu se permettre avec l'inauguration, parce que forcément, c'est le moment où on met le paquet, mais on ne peut pas faire des inaugurations tous les mois systématiquement. Donc.
Ok, qu'est-ce qu'il y a comme prochains événements qui sont remarquables et à ne pas louper ?
En commençant par ce soir avec Just Friends, dès cet après-midi, oui. Puisqu'on a des friperies, des ateliers maquillage, déco, des choses comme ça, jusqu'à 22h, 22h30. Et puis Just Friends, collectif de DJ qui va faire une boom pour enfants cet après-midi. Et puis qui prendra le relais en début de soirée, des moments tranquilles, et puis après très festif à partir de 21h30, 22h.
Comme on est dans une émission de chronique littéraire, est-ce que tout ça, ça vous laisse, vous avez encore le temps de lire, ou finalement, quand vous rentrez le soir, c'est juste vite au lit?
Moi, j'ai toujours beaucoup lu, mais je dois reconnaître que depuis quelques années, waouh, à chaque fois, je relis les 3 dernières pages pour me remettre dans le livre que je suis en train de suivre. Non, un peu moins ces temps-ci, mais ça va revenir, forcément.
Ouais, moi, j'ai un pote qui m'a envoyé un bouquin il n'y a pas longtemps, je le remercie, ça m'a remis le pied à l'étrier, mais je m'endors vite dessus.
Vous avez des conseils de lecture ou vous êtes sec sur le sujet ?
Eh ben, moi, je viens de lire... Alors, c'est plus BD, mais... T'as le droit.
Il est bien.
J'ai oublié le nom de la BD parce que j'ai pas lu le titre plus que ça, mais c'est, en gros, c'est l'histoire de George Lucas qui monte Star Wars en BD. Plutôt intéressant puisque tout va contre et ça finit bien.
C'est dans l'air du temps pour nous, c'est bien pour vous donner du courage.
Eh bien, merci à tous les deux. Il n'y a pas de prochaine révolution, vous n'avez pas un énième projet là que vous allez...
Non, on se concentre. Après, c'est nos enfants. D'accord. Le dernier petit bout de temps, il est quand même pour les enfants.
Merci de nous accueillir.
Merci Alice et merci Nicolas.
Bienvenue,
longue vie,
plaisir.
Longue vie au soleil pour quelques milliards d'années encore. Fabrice Caro, alias Fab Caro, vient de publier son dernier roman Fort Alamo chez Gallimard. Nous nous permettons de revenir aux sources de son génie avec un nouvel extrait de Moins qu'hier, plus que demain, avec de douces voix chères à nos cœurs.
Chérie, tu sais où sont les clés du garage ?
Bah, dans ton cul.
Ah, mais oui, c'est vrai, j'avais complètement oublié que je les avais mises là. Allez, je file. Bonne journée, mon chéri.
Ouais, bonne journée, mon amour.
Et bien, place maintenant à Olivier qui, comme à son habitude, a lu pour nous un opus qu'il est allé chercher sous je ne sais quel fagot. En tout cas, c'était pas dans la caisse du service de presse de l'émission, c'est sûr.
Je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de mes couilles. Non, jamais ? Ça m'étonne parce que j'ai une vraie passion pour mes couilles. Delphine et Solange mes couilles, des sœurs jumelles avec lesquelles j'étais au collège. Je les adorais. Les deux, hein, sans distinction ni préférence. Si on m'avait demandé de choisir entre l'une et l'autre, j'en aurais été incapable. En plus, c'était des vraies jumelles aux mozigotes et tout, alors pour les distinguer, vas-y. Cela dit, chacune avait son caractère. L'une était plutôt mollasse, alors que l'autre franchement plus ferme. Pas rigide non plus, faut pas pousser, mais un poil coriace. Je me souviens qu'un jour, Christophe Poutre avait essayé de tripoter mes couilles derrière le gymnase. Eh bien, il en avait pris plein la gueule. Ah, c'était le bon temps quand j'y repense. Je peux dire que j'ai passé des sacrés chouettes moments avec mes couilles. Je pourrais faire toute ma chronique là-dessus tellement c'est toujours hilarant les blagues un poil décalées sur ses propres organes sexuels, surtout quand elles sont faites par un homme. Parce que si une de mes camarades d'antenne s'aventurait à commencer son intervention par « Je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de mon cul. Non, jamais ? Ça m'étonne parce que j'ai une vraie passion pour mon cul. Jean-Pierre, mon cul. » Eh bien, je suis presque sûr qu'elle passerait immédiatement pour une fiefée malpolie, doublée d'une sale petite dévergondée à la vertu un peu plus que douteuse. Et vous savez pourquoi ? Parce que comme le dit Anna Krige dans Le sexe des femmes, aux hommes l'autorisation de formuler des évidences avec panache et aux femmes le droit de baisser les yeux en s'excusant d'exister. Alors il n'y a pas que ça dans le livre que l'auteur présente comme l'histoire d'une femme animée par la rage qui demande réparation pour son sexe et cherche à se sauver. mais le rapport au langage y tient une place très importante. Ce qui est logique, parce que le langage est parmi bien d'autres, un méchant marqueur des principes de domination patriarcale, solidement ancré depuis des lustres dans notre société, de ceux qui laissent penser qu'être un homme, c'est avoir un passeport pour le pays où on peut dire n'importe quoi, n'importe quand, sur n'importe quel ton. Découle de ce présupposé navrant un certain nombre de conventions douteuses et de prérogatives tout aussi foireuses qui amènent les unes et les autres à se soumettre à des assignations linguistiques dont Anna Krige donne quantité d'exemples dans un chapitre intitulé « De ce que l'on peut dire et de ce que l'on doit taire ». Je vous en livre quelques extraits. Quand on est une femme, on ne dit pas « j'adore baiser, je pourrais passer ma vie à sucer des fagots de bites ». On dit « il m'arrive d'être voluptueuse quand j'ai des sentiments forts pour une personne ». On ne dit pas « je suis très intelligente », on dit « mon intelligence pratique me vient de ma mère ». On ne dit pas « je te l'avais bien dit », on dit « tu avais raison ». On ne dit pas « tu m'emmerdes », on dit « pardon ». Quand on est un homme, on ne dit pas « je regrette », on dit « tu l'as bien mérité ». On ne dit pas « je n'arrive pas à bander », on dit « tu n'aurais pas un peu grossi ». On ne dit pas « tu m'as tant manqué », on dit « je savais que tu m'attendais ». La force du livre d'Anna Krige tient au fait qu'on n'est jamais bien sûr en cours de lecture de savoir si on doit rire aux éclats ou pleurer à chaudes larmes, car son écriture est si habile, son ton si percutant, qu'on réalise petit à petit que les plaies sur lesquelles elle jette sans vergogne le sel de sa causticité sont celles-là même avec lesquelles on a pris l'habitude de vivre en faisant comme si de rien n'était. Tout cela n'est pas très nouveau, me direz-vous. Certes non, mais il n'est jamais inutile de rappeler que le sexisme est un piège pour les deux sexes. Hommes et femmes en souffrent également, même si le niveau de souffrance de ces dernières est incomparablement supérieur et par suite indiscutablement plus injuste, incompréhensible et intolérable que celui des hommes. Le but n'est évidemment pas de renvoyer dos à dos mâle et femelle, mais je me demande souvent si dans le fond, le problème, et notez bien que ce n'est pas une façon de l'éluder en mode « allez sans rancune, faisons-nous un bisou et on n'en parle plus ». Je me demande souvent donc si le problème ne vient pas du fait qu'on voudrait sans cesse et à tout prix enfermer les gens dans un système méchamment manichéen, où il faudrait être homme ou femme, courageux ou attentive, puissant ou désirable, préfet ou femme du préfet. Mais est-ce qu'avoir un chromosome Y dans chaque cellule, un taux de testostérone de 33 nanomoles par litre de sang ou des testicules au fond du slibouze fait de moi un prétendant légitime et naturel au poste de maître du monde? Sauf que moi ça ne m'intéresse pas du tout. Un maître, je ne veux pas plus en être qu'en avoir. Moi, je préfère me la jouer pépère, faire des petites chroniques à la radio et me gratter gentiment les couilles au coin du feu, sans rien demander à personne, sinon qu'on évite, dans la mesure du possible, de venir me les casser justement. Si on accepte l'idée avec Anna Krige que les gens sont complexes, que nous sommes faits de paradoxes, que l'ambivalence est le cœur vibrant du monde et que les choses ne sont pas noires ou blanches, peut-être arriverons-nous à accepter d'être simplement un parmi les autres, sans plus en ressentir de honte qu'en tirer de fierté, et accepter que ces autres, tous ces autres, quels qu'ils soient et d'où qu'ils viennent, sont eux aussi un parmi les autres, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs, qu'ils sont eux aussi uniques, comme tout le monde. Et ça, ce ne sont pas Delphine ni Solange qui vous diront le contraire. Le sexe des femmes d'Anna Krige est édité chez Folio.
Ah, merci Olivier. Alors oui, vous allez nous dire, voire nous écrire qu'Olivier aurait pu faire la route jusqu'au soleil pour être en direct avec l'ensemble des chroniqueurs de Despoches sous les yeux. Et vous auriez raison, mais sachez que son absence est toute excusée car ce week-end, Olivier participe à sa première foire au livre à Belfort. Oui, mesdames, messieurs, à Belfort, même qu'elle s'appelle Livre 90, la foire au livre de Belfort. Et n'y participant en tant qu'envoyé spécial de Despoches sous les yeux, mais en tant qu'auteur, oui, cher auditeur, chère auditrice, Olivier vient de publier son premier livre chez Erol dans la collection Roman d'histoire pop, même que ça s'appelle Mozart, un roman ébouriffant. Et figurez-vous qu'il est top ce roman. Alors courez l'acheter pour vous payer une bonne tranche de rigolade en vous instruisant sur les jeunes années de Mozart. Et pour nous remettre de ces émotions, retrouvons Philippe Catherine.
Pas tout, je ne sais rien sur le rien, encore moins sur le tout. Qui du soleil ou de la terre se tourne autour? Qui, je l'oublie toujours. Moi je suis total à l'ouest, moi petit bichon maltais, positif à la côte est. Ah, c'est celui qui dit qu'il est total à l'ouest. c'est à l'ouest qu'on voit le soleil se coucher. Et c'est à l'ouest que tourne l'usine à rêver. Et c'est là que je suis né pour au troubadour. Non, sans trompette ni tambour. Mais plus tu iras vers l'est, tu te retrouveras à l'ouest. Tu t'avances et moi, tu sais. Ah, oh, c'est celui qui dit qu'il est total à l'ouest. On est total à l'ouest. Le temps est bien plus digeste. Sur qu'on me traite très de niais. Oh, c'est celui qui dit qu'il est total à l'ouest. Bien sûr, tu ne vois rien, tu comprends rien, tu sais pas bien. Mais au moins, tu ne connais pas la vie de ces gens qui parlent en statisticien. De ces gens académiciens, total GPS.
Et voilà, bien sûr, c'était Total à l'Ouest, morceau tiré du nouvel album de Philippe Catherine, Zouzou. Vous reprendrez bien une tranche de Pulitzer. Non, parce que le livre que nous chroniquons, que chronique ce mois-ci Nadia, pardon, bah, il a eu le prix Pulitzer.
Oui, en 2022. Alors, ça s'appelle Trust chez, de Herman Diaz chez Point. Et comme l'indique le titre de ce roman, il est question de transactions financières et plus particulièrement ceux qui les réalisent, qui les élaborent. Trust ne parle pas des riches, ni des très riches, mais des ultra-riches. Même si vous êtes complètement à l'ouest concernant la finance ou l'économie, vous avez entendu parler de la crise de 29, de l'effondrement de la bourse de New York, des faillites en cascade et de ses conséquences sur l'économie mondiale. C'est l'un de ces spéculateurs, Andrew Bevel, qui est au centre de cette histoire parce qu'il a su tirer son épingle du jeu. Celle qui raconte est son nègre. Il l'avait engagé pour l'aider à écrire son autobiographie, et ce, malgré ses origines. Carida est la fille d'un anarchiste italien. Elle avait bien évidemment maquillé son CV, mais son patron, qui avait enquêté, l'avait justement embauché pour sa capacité à s'inventer une autre vie. Mais ça, elle ne l'a compris que plus tard. Vous découvrirez vous-même ce qui a motivé le désir de se raconter. Mais bien évidemment, le souhait de garder la maîtrise du récit fait partie du personnage. Est-ce que l'histoire d'Andrew Bevel est particulièrement intéressante ou riche d'enseignements ? Que nenni ! Sans surprise, Andrew Bevel raconte son don pour les chiffres. Voilà, il est talentueux. Ses formidables intuitions. Évidemment, il a du génie, son ascétisme au travail, parce que lui, il bosse. C'est un truc qu'on a déjà entendu, non ? Il a choisi pour l'accompagner une épouse qui organise sa façade sociale, artistique et philanthropique par nombre de patronages plutôt que des réceptions tapageuses. Des concerts privés sont organisés at home et en traversant les couloirs de la résidence, Ida a l'impression de visiter une galerie de peinture. Ce riche-là se veut discret, secret, élégant, sobre, de bon goût. Ida a appris chez Bevel que l'autorité et l'argent s'entourent de silence. Les émotions, les exigences du corps sont totalement maîtrisées, cachées. La maladie se vit dans une clinique privée en Suisse. Il gagne et a gagné énormément d'argent, mais toujours, dit-il, en servant l'intérêt général, comme d'autres aujourd'hui œuvrent au prestige de la France. Qui croit encore au mythe du self-made man, du rêve américain ? Andrew Bevel aurait dû se méfier de son nègre, car Ida est beaucoup plus subtile qu'elle ne le laisse paraître et elle sait que les contes de fées sont pour les gogos. Herman Diaz est lui très malin dans sa façon de raconter et de construire son récit pour tenir le lecteur en haleine. Peu à peu, le vernis s'écaille et une vérité se dessine dans le non-dit. Voilà, c'est une lecture très plaisante. Ça s'appelle Trust de Herman Diaz chez Point.
Merci Nadia et traversons maintenant l'Atlantique et avec Odile partons au Maroc.
Oui, je vous propose une chronique sur le roman Aussi riche que le roi d'Abigail Assor paru chez Folio. Vous n'en avez peut-être pas entendu parler parce qu'il a été publié pendant la pandémie. C'est un roman qui donne envie d'aller à Casa et de suivre les pas de notre héroïne comme les fans d'Emily in Paris se vont faire du tourisme à Paris. On suit Sarah, qui est une jeune fille de 16 ans. Elle est française, elle était scolarisée au lycée français, elle vient d'avoir son bac et elle côtoie donc la bourgeoisie riche et puissante qui vit à Casa. Elle nous raconte sa vie de jeune fille. On est en 1990 sous Hassan II et on suit ses pérégrinations. Donc elle va à la plage, mais c'est la plage 56. Elle va dans les cafés, mais c'est au snack Jus Zirahui. Elle va au cinéma Lynx, avenue Mersultan. Bref, on est dans une immersion assurée dans les rues de Casa. Mais malheureusement, ce n'est pas vraiment dans la peau de Sarah qu'on voudrait se retrouver. On ne peut pas s'identifier car Sarah est pauvre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'autrice Abigail Assor excelle à nous décrire les tensions sociales entre, d'une part, les jeunes Marocains qui sont pauvres, les enfants des rues qui quémandent ou qui font du trafic de clopes, les petites bonnes qui sont maltraitées, harcelées, et d'autre part, les riches Marocains, la jeunesse dorée qui maîtrise le français, qui est la langue essentielle pour appartenir au haut de l'échelle sociale. Et Sarah, elle, étant française, a la chance de pouvoir frayer avec cette frange riche de la jeune société marocaine qu'elle côtoie lors des pool parties dans les riches et grandes maisons privées des riches marocains du quartier en face supérieure. Mais elle va constamment mentir, elle ne peut inviter personne chez elle parce qu'elle habite à Hey Mohammadi, à côté du bidonville des carrières centrales, bidonville qui a été rasé en 2016 seulement. Et donc, en fait, elle est arrivée là parce que sa mère a suivi un amant, elle s'est retrouvée complètement escroquée. Donc la mère végète sur un canapé, devient obèse et se prostitue occasionnellement pour survivre. Donc Sarah, elle ne veut pas de ça, elle a un objectif dans la vie. Elle veut devenir riche, aussi riche que le roi, d'où le titre de ce roman. Donc elle est calculatrice, stratégique, elle va, on va dire, profiter de l'école de la vie pour mettre en avant sa seule richesse qui est, heureusement, sa beauté. Donc elle va devenir observatrice des jeunes riches qui l'entourent, elle va être prête à tout pour avoir des cadeaux, des faveurs. Bref, elle joue de ses charmes pour fuir la précarité. Ça ne suffit pas, il faut qu'elle passe à la vitesse supérieure parce qu'elle veut devenir aussi riche que le roi. Donc, elle va jeter son évolu sur Driss, 23 ans, héritier d'une famille richissime. Alors Driss, comment vous le décrire? Il ne vous regarde jamais dans les yeux, il est timide, voire farouche et, cerise sur le gâteau, il est laid. Mais elle est déterminée, ce sera Driss sinon rien. Donc ce qui pourrait être glauque en fait est sous la plume d'Abigail Assor, elle-même marocaine, ayant fréquenté le lycée français de Casa. Finalement c'est une espèce de conte moderne, on a bien la Souillon et le prince riche. La détermination de Sarah à séduire Driss va la mener finalement à croire qu'elle est vraiment amoureuse. Et il va y avoir une véritable rencontre entre ces deux êtres que tout séparait. Parce que finalement chacun est prisonnier de la société marocaine qui est codifiée, on peut même dire sclérosée. Et finalement, ce roman va retracer toutes les étapes de la quête de Sarah pour mettre Driss dans ses griffes. Et donc, on va assister à ses efforts pour rencontrer les yeux de Driss, pour le rencontrer en vrai, pour provoquer des face-à-face, des virées à moto. Et tout ça, ça donne une cartographie de Casa qui est absolument géniale. Et franchement, moi, ça m'a fait penser à Modiano quand il cartographie Paris. Bref, un roman très, très intéressant. Pour moi, ce fut une lecture complètement addictive, dépaysante et surprenante, surtout quand on pense à ce sujet complètement assumé qui est quand coucher apparaît comme la seule solution d'échapper à son destin. C'est grave, non? Enfin, je vous conseille donc « Aussi riche que le roi » d'Abigail Assor, paru chez Folio. Un roman très dur à lire, hein, quand même. Et est-ce qu'ils vont finir par se marier? Il faut le lire pour, pour savoir.
Merci Odile. Allez, on se fait un petit coup de Johnny Mafia. C'était Johnny Mafia avec Vomit Candy. Ils seront avec Johnny Revolver, Johnny Montreuil et Johnny Carwash à la soirée des Johnny au soleil le 30 novembre. Donc venez nombreux pour cette bonne soirée pop et rock. Et on retrouve avec grand plaisir un habitué de l'émission, Jérémy Bouquin, le bien nommé. Pascal va l'interviewer tout de suite.
Oui, on reçoit Jérémy Bouquin encore, je dirais presque encore, parce que la dernière fois c'était le 30 mars.
Et ouais. Hein,
Jérémy, un habitué, un abonné des poches sous les yeux, quasiment 2 bouquins par an édités.
Hein. 3 même cette année.
3 cette année.
Ouais.
Bon, je t'ai déjà posé la question de trouver des éditeurs, t'as déjà répondu, et pour ceux et celles qui voudraient parler de ce sujet ou écouter l'avis de Jérémy, bah, allez réécouter l'émission du 30 mars, mais une question que je n'ai pas posée, est-ce qu'il t'arrive qu'il y ait des bouquins qui soient refusés ?
Oui, oh, il y en a pas mal même.
Donc ça veut dire que non seulement tu en publies 2 ou 3 par an, mais en plus, ouais, tu en écris d'autres qui ne sont pas publiés.
Ouais, et que quand ils ne sont pas publiés, je réécris, je retravaille. Puis j'ai des éditeurs qui me répondent en me disant pourquoi ça ne marche pas. Donc,
bon. Voilà. Très bien, donc tu écris comme une mitraillette pratiquement, et ça tombe bien parce que dans Paris District Zéro, il y en a de la calache.
Il y en a, hein, un peu. Ouais.
Dans une ambiance post-Covid, les militaires français ont pris le pouvoir. Voilà, la montée du Rassemblement National vous stresse. Eh ben, avec un képi et une soutane, ça peut être carrément pire, surtout si on s'appelle Sam. Sam pour Samuel à la naissance, Sam pour Samantha aujourd'hui. Détective privé, surtout si on trempe dans les affaires louches. Hein, mais en ces temps incertains, avec un état défaillant, seules les affaires pas très légales peuvent rapporter. Sam va s'en prendre plein la tronche, mais elle sait rendre la monnaie de la pièce. Un roman violent style Gilet jaune à Gaza, mais qui laisse entrevoir ça et là des bribes d'humanité et d'espoir. Donc on retrouve Sam, hein, ouais. Sam, une vieille connaissance, puisque tu avais déjà écrit avec elle dans
Sois belle et tais-toi.
Sois belle et tais-toi, voilà.
Ouais, tout à fait. J'avais envie de réutiliser ce personnage parce qu'il est... Il est intriguant, il est intéressant, il est mi-homme, mi-femme, enfin il est surtout femme, hein, mais ce qui moi m'intéressait c'était de la catapulter dans quelque chose où elle pourrait vraiment vraiment être au plus mal. Et en l'occurrence un petit peu ce relent qu'on pourrait avoir du moment actuel, de fascisme qui remonte, qui peuvent à un moment ou un autre troubler les limites on va dire.
Mais... ça t'inspire ou ça te remue ces problèmes d'identité sexuelle? Parce qu'on t'avait déjà reçu pour « Tu seras un homme, mon fils ».
Exactement.
Ce sont des sujets qui te donnent envie d'écrire?
Ça fait partie des sujets qui m'interpellent. C'est comment la vie privée peut autant intéresser la morale. Enfin, pourquoi elle peut autant s'imbriquer dans la vie politique? Pourquoi elle a autant d'intérêt à ressortir alors qu'elle devrait rester dans les foyers, dans les maisons, etc. Pourquoi à chaque fois qu'il y a... une agression, une attaque, etc. Il faut que nécessairement ça soit sur ce pan-là. En tout cas, ça pose question.
Il a été écrit quand, ce roman? Parce qu'il sonne bizarrement très, très actuel, comme s'il avait été écrit depuis la dissolution de l'Assemblée nationale.
Eh bien, pas du tout. Il a été écrit il y a 3 ans. Il a été écrit au moment où Fillon... Non, même 4. Au moment où Fillon s'était accoquiné. Enfin, on voyait revenir des gens bizarres autour de Fillon, des Retailleau, enfin voilà, très très proches de certains mouvements, de Civitas, etc. Et à ce moment-là, il y avait quand même quelque chose qui déjà n'allait pas. Donc j'avais envie de le faire basculer. Et puis, il n'avait pas été édité. Ce livre-là, il fait partie des nombreux livres qu'elle a fallu retravailler plusieurs fois. Déjà parce qu'il n'y avait pas les no-go zones. Il n'y avait pas la vocation qu'il y ait des quartiers qui décident de ne pas tomber dans cette France-là, d'essayer de se rebeller et ce que ça pourrait donner. Mais non, il y a une forme de boucle.
Alors, on sent aussi une influence post-Covid, quoi. Comme si tu avais quand même assez mal vécu cette période.
Alors, je ne l'ai pas forcément mal vécu parce que ça m'a permis d'écrire beaucoup plus, mais je l'ai mal vécu parce que d'un seul coup, les libertés publiques, elles étaient réduites à rien et étonnamment, personne ne protestait plus que ça. Ce qui peut quand même poser beaucoup, beaucoup de questions, c'est que vraiment dans un état de droit, sous un état de crise, on peut tout arrêter et pour faire circuler les gens, sortir des QR codes, enfin, etc. Enfin, ça pose beaucoup de questions sur les libertés publiques actuellement.
Et pareil, on sent aussi l'influence gilet jaune, l'influence autour de l'assassinat de Naël, la révolte des cités, des laissés pour compte. Ce sont des sujets qui te préoccupent aussi, non?
C'est des sujets sociétaux. En tout cas, il n'y a rien qui a changé. Ça veut dire depuis 1995, depuis la haine, il n'y a rien qui évolue. On voit des quartiers où c'est de plus en plus pauvre. On voit des situations qui n'évoluent pas. Et on voit une partie de la population qui ne retrouve même plus son compte dans le champ politique actuel. En tout cas, ça pose des questions, ouais.
Et on a presque l'impression qu'il a été écrit cet été, hein, ce que je disais, avec les élections européennes et la montée des extrêmes droites. Tu n'as pas l'air confiant dans l'avenir de ton pays?
Non, encore moins vu ce que je vois en ce moment à la télévision. Non, il a été écrit bien bien avant. En tout cas, il est dans les cartons de l'éditeur depuis un an et demi, ouais.
Et comme si finalement la crise climatique, c'est pas qu'on s'en fout, mais en fait, c'est plutôt le péril brun qui va arriver avant, quoi.
Ben là, va certainement aggraver l'autre. Mais je ne sais pas si la crise climatique, on s'en fout réellement. En tout cas, dans cet univers-là, oui, elle passe en second. Mais quand un monde est en crise, enfin quand un pays est en crise comme là, nécessairement, il y a des pans entiers de la société qui sautent les uns après les autres. En tout cas, on voit comment on supprime un à un les libertés publiques pour pouvoir imposer une forme de pouvoir. On commence par les femmes, et après on continue, on enchaîne, on bloque les situations, on impose le travail, enfin voilà, il y a tout un tas de pans qui s'imposent les uns après les autres, et c'est vrai que le climat fait certainement pas partie des réflexions de ces personnes-là.
Un petit conseil de lecture pour finir
Eh ben, je vais conseiller un livre que je n'ai pas lu, mais qui est dans l'actualité ce matin et qui m'agace encore plus. C'est Le Club des Enfants Perdus. C'est le fameux livre qui est actuellement attaqué par des associations d'extrême droite parce qu'il est au Goncourt des lycéens. Et il a été nommé par le Goncourt des lycéens. Et visiblement, vu qu'il y a des scènes de sexe à l'intérieur, ça émoustille un petit peu ces gens-là. Donc il faut l'acheter. Voilà, il faut le soutenir, il faut l'acheter, il faut y aller, il faut en parler.
Et il faut aussi acheter le dernier livre
Merci.
De Jérémy Bouquin, donc Paris District Zéro, paru chez Melmac il y a quelques jours.
Il y a deux jours.
Voilà, il y a deux jours. Merci beaucoup.
Merci.
Merci Jérémy. Et on fait une nouvelle incursion en prévision de la soirée du 30 novembre au soleil avec Johnny Montreuil.
Mais malgré leur cœur pur, on dirait que la vie leur a brûlé les ailes.
Eh ben, c'est très chouette, Johnny Montreuil. Et donc, si vous voulez en écouter davantage, rendez-vous donc au soleil le 30 novembre pour la soirée des Johnny. Moi, ce que je préfère, c'est quand même Johnny Car Wash. Alors, vous ne l'avez pas écouté aujourd'hui, mais comme ça, ça vous donnera une bonne occasion de venir au soleil à la fin du mois de novembre. Mais quelle heure est-il ? Ce ne serait pas l'heure d'écouter le 12e épisode de La Bourboule Parano, le feuilleton radiophonique made in béton ?
Vous connaissez La Bourboule ? Eh ben vous avez tort, c'est là que j'ai connu Albert.
La Bourboule Parano. Le feuilleton made in béton.
Allez, faisons un peu de géographie. L'itinéraire Tours-La Bourboule passe par Moulins. C'est donc là que notre fantastique trio prend une chambre d'hôtel pour se reposer un peu. Est-ce vraiment un trio ? Je vous rappelle que le prêtre et la patronne ne sont plus que deux, accompagnés d'un canard, qui n'est autre que Chicken transformé en volatile par le diable courroucé. Un homme et une femme, Lelouch en a fait un film. L'auteur de ce feuilleton en fait une scène torride à la chorégraphie pieuvresque, tentaculaire. C'est chaud.
À Moulins, près de l'hôtel.
Tu vois mon vieux Chicken ? J'y ai pensé toute la nuit, j'ai tourné ça dans tous les sens. Et au final, je suis pratiquement sûr que ce n'était pas des couettes qu'elle avait la patronne au concert de Magma, mais des nattes. Après, franchement, ça change pas grand-chose. Hein. Ça lui allait très bien aussi. Tout lui va toujours très bien de toute façon. Elle est tellement... tellement... Putain, qu'est-ce que tu fais, Chicken ? Et... Non, arrête ça tout de suite. Non, non, tu prends pas mon pain au chocolat. Non, arrête. T'avais qu'à te servir au buffet de l'hôtel. En plus, c'était un buffet... Non, j'ai dit non. Dégage, lâche ça. Non, passe par cela, espèce de bâtard, c'est le meilleur. Celui avec la grosse barre de chocolat dedans. Lâche, lâche, je te dis. Putain, tu vas morfler, mon salaud. Aïe, 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 ouïouïouï. Arrête, tu fais super mal avec ton bec.
Non, mais c'est pas vrai. Mais t'es encore en train de te castagner avec un canard. Mais c'est quoi ton problème ?
Bah, c'est Chicken, il veut piquer ma chocolatine.
Mais c'est pas Chicken. Chicken, il est dans la voiture, il nous attend.
Bah, quelle voiture ?
Bah, la voiture qu'on va prendre pour enfin arriver à la Bourboule.
Vous avez piqué une caisse, mais vous êtes taré ou quoi ?
Mais non, on n'a pas piqué une caisse. On l'a louée.
Ah oui ? Et avec quel argent ?
Avec l'argent que Chicken a retrouvé dans une autre de ses poches.
Mais putain, il a combien de poches en tout ? C'est n'importe quoi. C'est plus un canard, c'est un kangourou.
Bon allez, amène-toi. Et au trot. Non, Chicken, tu retournes sur la banquette arrière.
Mais pourquoi ? J'adore conduire.
Mais ouais, mais t'adores peut-être ça, mais là, tu peux pas.
Bah si, je peux. J'ai mon permis depuis plus d'un an. J'ai jamais eu d'accident. J'ai pas d'amende. Je conduis super bien.
Ok, et quand t'as passé ton permis, comment as-tu fait pour atteindre les pédales avec tes petits pieds palmés, là ?
Ouais, bon, ok, c'est vrai, à l'époque, j'étais pas un... Bon, d'accord, ok, j'ai compris, je retourne à l'arrière.
Allez, le présent, tu prends le volant. Et si tout va bien, on peut être à la Bourboule avant midi.
C'est encore loin ?
Allez, commence pas, on vient juste de démarrer, on est même pas sorti du parking.
J'ai envie de faire pipi.
Ouais, bah tu te retiens.
On fait un jeu ?
Ah non, moi je joue pas, hein. Je me concentre sur la route.
Et quel jeu ?
Bah, je caquette une chanson et tu dois trouver le titre.
Ok.
Kilomètres plus loin.
Ouf, il s'est endormi. J'ai vu le coup qu'on allait devoir l'attacher à un arbre et l'abandonner sur le bas-côté.
Et merde, les flics.
Bonjour, messieurs, dames. Gendarmerie nationale. Je vois que vous transportez un canard dans votre véhicule.
Ah non, ça c'est Chicken.
Chicken ?
Oui, 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 monsieur, c'est Chicken.
Ce canard s'appelle Poulet.
Eh oui, et alors ? C'est pas interdit par la loi, ce que je sache.
Interdit, non, c'est juste un peu bizarre. Hein. Mais bref, ce qui est interdit, par contre, c'est de transporter des volatiles dans le département. Rapport à la grippe aviaire. Il y a un arrêté préfectoral à ce sujet.
Ah oui, oui, d'accord, mais Chicken n'est pas un canard.
Vous allez me dire que c'est un poulet, peut-être. Ce qui ne changerait pas grand-chose au problème.
Non, alors c'est pas tout à fait ça, mais contrairement aux apparences, ce n'est pas un canard.
Corps recouvert de plumes, bec aplati, pattes palmées. Je suis pas un spécialiste, hein, mais il me semble bien qu'il s'agisse d'un canard.
Bah, en fait, c'est un copain à nous qui a été transformé en canard par le diable sur un quai de la gare d'Issoudun.
Le diable ?
Oui, 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 monsieur l'agent. Lucifer en personne.
À la gare d'Issoudun ?
Exactement. Sous-préfecture de l'Indre.
Ok, 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 je vois ce que c'est. Hé, hey, Micheline, apporte-moi l'éthylotest.
Comment ?
L'éthylotest.
Les kilos de fesses ? Qu'est-ce que c'est ça, les kilos de fesses ?
Mais non, pas les kilos de fesses, qu'est-ce que le gourde ? Le truc pour voir si les gens sont bourrés.
Si quoi ?
Les gens sont bourrés.
Les jambons fourrés ? Mais qu'est-ce que c'est ça, les jambons fourrés ?
Oh, bonne mère, je vous jure, c'est pas un cadeau, cette Micheline. Bon... Je vais chercher moi-même. Vous, hein, vous bougez pas.
Allez, vas-y ! Fonce !
Quoi ?
Fonce, je te dis ! Si on attend qu'il revienne, il va embarquer Chicken ! Allez, accélère à mort !
Ok.
Ok, alors, oui, je précise. Passe la première et accélère à mort !
Ok.
Halte-là ! Halte-là ! Oh, les salopards !
On ne les poursuit pas, chef ?
Mais avec quoi ? On est en trottinette électrique ! Je te rappelle. Passe-moi plutôt la radio.
Voilà, chef.
Brigade 37 à Centrale, Brigade 37 à Centrale.
Centrale, j'écoute.
Oh Michel.
Oui, j'écoute.
Oh Michel, je savais pas que tu étais rentré de vacances.
C'est Patrick ?
Mais oui, c'est Patrick.
Mais comment tu vas, mon ami ?
Mais c'est à toi qu'il faut demander, pas trop dur à la reprise.
Ça va, ça va. Tu sais ce qu'on dit, hein ? Ce sont les 60 premiers jours les plus difficiles. Après, on est suffisamment reposé pour repartir en vacances.
Sacré Michel ! Toujours le mot pour rire.
Hé, tu viens au Balto ce soir ?
Au Balto ?
Et j'ai fait sa retraite.
Ah bah oui, c'est vrai.
Il faut venir, hein.
Ah, tu sais, je suis déjà rentré mécher hier à la Solange. Ouh, elle m'a pris la tête, elle faisait une de ses tranches.
Et tu peux pas rater la retraite de GG.
Ah, c'est vrai.
Tu te souviens la dernière fois comment on s'est marré à l'enterrement de Momo?
Oh putain, ce délire.
Tu m'étonnes, quand tu as mis la serpillière sur la tête pour imiter Dalida, j'ai cru que le commandant allait pisser dans son uniforme.
Eh, je passerai, hein, mais juste pour boire des jus de fruits alors.
C'est ça, le pastis c'est que des plantes, hein, si tu veux aller par là.
Allez, super. Allez, ciao Michel. Sacré Michel, quel bout en train.
Et pour les fillards, on fait quoi du coup?
Oh putain. Et repasse la radio. Eh, brigade 37 à centrale, brigade 37 à centrale. Prévenez d'urgence toutes les patrouilles pour intercepter un véhicule type pont à rose bonbon immatriculé 936 Coca H Ursule 6066 circulant en direction de la Bourboule.
La Bourboule de Bouligne.
Aïe, la Bourboule aïe. Parano. Le feuilleton, made in béton.
Et voilà, c'était l'épisode 12. Vous avez sûrement hâte de découvrir la suite. Alors précipitez-vous sur votre site de podcast préféré, podcast-radiobéton.com, pour vous délecter des 22 premiers épisodes. Mais surtout, on vous donne rendez-vous sur les ondes de Radio Béton où tous les jours du mois de novembre, à partir de lundi 4, vous pourrez vous délecter d'un nouvel épisode chaque jour pour revivre cette saga jusqu'au 23e épisode, jusqu'à la Bourboule.
Vous connaissez la Bourboule?
Parfois non.
Eh ben vous avez tort, c'est là que j'ai connu Albert.
La Bourboule parano. Le feuilleton, made in béton.
C'est drôle que vous ne connaissiez pas la Bourboule, un homme comme vous.
À retrouver sans modération en podcast, en pilule, en sachet et en comprimé sur Deezer, Spotify, iTunes et tous les noms un peu modernes comme ça.
Et surtout sur podcast-radiobéton.com.
La référence ultime des émissions de la radio. Sinon, vous pouvez aussi l'écouter sur l'émission des poches sous les yeux, le samedi, une fois par mois à 12h, mais c'est plus fugace.
Vous n'aimez pas les voyages? Albert est imbattable là-dessus. Si je vous disais qu'il connaît les horaires de tous les trains d'Europe, même les horaires de correspondance.
Un message chatoyant pour vous informer qu'à partir du 4 novembre, chaque jour, à 8h30, vous pourrez retrouver un épisode de la Bourboule parano jusqu'à épuisement des stocks.
Ah l'été, c'était bien, hein, on s'en souvient assez peu, hein, faut dire, avec tout ce qui tombe. Ah, les vacances, les festivals. Mais vous avez remarqué, cette année, dans l'actualité, il n'y a pas été question d'incendie de forêt, non? On a beaucoup parlé de JO, de nomination de Premier ministre. Un peu plus, on oublierait presque les méfaits du réchauffement climatique. Ah, voilà. Au moins, avec le temps qu'on a cet automne, on se rappelle que finalement, on est tous confrontés un jour ou l'autre à ces bouleversements climatiques. Et pour alimenter votre éco-anxiété, j'ai ce qu'il vous faut, puisque j'ai lu pour vous Et la forêt brûlera sous nos pas. Le second roman de Jens Liljestrand, son premier traduit du suédois en français aux éditions Autrement 2022, est sorti en poche l'année dernière. Roman que je vous recommande, comment dirais-je, chaudement bien sûr. Le titre « Et la forêt brûlera sous nos pas » sonne comme une prophétie. Celle-ci semble à l'œuvre au début du roman. Un méga feu fait rage au centre de la Suède. L'évacuation organisée par les autorités est en cours et Didrik, sa femme et leurs trois enfants doivent se résoudre à écourter leurs vacances qu'ils passent dans la région. Sauf qu'au moment de partir, leur voiture ne veut pas démarrer. Didrik, le père, consultant dans la communication et les médias, est le premier narrateur de ce roman choral. Vous verrez comment ça peut être stressant de jouer les sauveurs de sa propre famille. Stressant et si peu gratifiant. Et en fait, on s'aperçoit vite que l'évacuation se barre en sucette et que les autorités sont complètement dépassées. À croire qu'elle n'avait pas du tout anticipé la possibilité que des méga-feux puissent ravager la Suède. Et on suit Vilja, la fille de Didrik, ado hyperconnectée, seconde narratrice de ce roman, dans la cohue des convois d'évacuation qui doivent permettre à tout ce beau monde de rejoindre la capitale, Stockholm. Et oui, car n'oublions pas que nous sommes en Suède et que grâce à la force de son modèle social, c'est forcément le pays le plus à même de faire face à ce genre de catastrophe climatique. Lol, eh ben pas du tout. En ville aussi, ça se barre en steak. Mélissa, influenceuse au hashtag de circonstance, choisit la joie, et accessoirement maîtresse de Didrik, est la narratrice suivante et aux premières loges de nous, pour nous restituer les émeutes qui font rage en ville entre les différentes factions d'écolo ultra. J'arrête là, mais il faut dire que Jens Lillestrand se régale pour alimenter son intrigue de rebondissements, de points de vue différents qui donnent à son écriture une impression kaléidoscopique complètement déroutante pour le lecteur. Nous voici, nous aussi, sans repère, comme si nous devions faire face à des événements inédits. Et si l'auteur ne nous donne pas les clés pour nous en sortir, et ça serait si ces clés existaient d'ailleurs, il arrive à travers ses personnages à mettre en scène nos attitudes et comportements possibles face à cette menace. Des hédonistes indifférents qui n'ont qu'un slogan à la bouche « Acclimatez-vous, bordel !» à ceux qui sont mus par la peur ou la lâcheté en passant par les indignés en colère, à ceux qui essaient de faire preuve de courage ou qui n'ont que la violence pour s'exprimer. Tous se débattent dans un moment où on aimerait tellement que ces forces s'unissent, alors qu'au mieux c'est chacun pour soi qui domine, voire personne pour personne. Je suis ressorti de cette lecture de 600 pages, dont j'ignore d'ailleurs si le papier est issu de forêts durables, complètement déboussolé, toujours plus convaincu qu'à notre hauteur, nos marges de manœuvre individuelles pour prévenir le bouleversement climatique ou pour y faire face sont bien dérisoires et que ce n'est qu'ensemble que nous avons des chances d'y arriver. Pour vous en convaincre, lisez « Et la forêt brûlera sous vos pas » de Jens Lillestrand, paru chez J'ai lu. Et c'est sur ces notes teintes de pessimisme que s'achève cette nouvelle émission de la troisième saison de Des poches sous les yeux, l'émission. Nous étions en direct du soleil, la nouvelle guinguette d'hiver à Tours. Merci à nos hôtes, merci à Jérémy aussi, à nos chroniqueurs, à Véro, à la technique. Pour les inconditionnels de cette émission, et ben rendez-vous sur notre site de podcast, podcast-radiobeton.com. Et pour les fidèles, on se retrouve le 17 novembre en direct de MAM à l'occasion de la Bourse au disque et à la bande dessinée organisée par Radio Béton. D'ici là, allez chez vos libraires préférés, dans vos bibliothèques municipales, allez où vous voulez et lisez. Salut à tous!
Des poches sous les yeux, l'émission.